VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 17h30 temps universel. Nous sommes lundi 27 novembre 2017 au sommaire. L'épiscopat congolais exhorte le président Kabila à dire qu'il ne va pas briguer un nouveau mandat en 2018. Le président français Emmanuel Macron arrive ce soir au Burkina Faso, première étape de sa tournée dans trois pays ouest-africains.
Il faudrait qu'on ait le courage de le dire haut et fort. Hein. La politique française envers le Burkina Faso vraiment est une politique vraiment assassine.
Reportage à Ouagadougou dans la partie magazine. Report des élections régionales prévues en décembre au Mali. Et puis le Hamas palestinien refuse de désarmer le tout dernier couac après la réconciliation avec le Fatah. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Les évêques catholiques en RDC demandent à Joseph Kabila d'annoncer clairement qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Ils l'ont fait savoir ce lundi à Kinshasa. Des recommandations ont été formulées également à la CENI, à qui la Conférence épiscopale nationale du Congo rappelle qu'elle doit davantage faire preuve d'indépendance. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Que le président de la République rassure l'opinion qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Cela va contribuer à décrisper le climat politique en RDC. C'est l'une des recommandations des évêques catholiques au terme de leur assemblée plénière extraordinaire tenue à Kinshasa. Aux députés nationaux, ils demandent notamment de voter des lois, de contrôler l'exécutif et au gouvernement de veiller au respect des libertés, de publier avant la fin de l'année le plan de décaissement des finances à la CENI et d'œuvrer à la décrispation politique telle que prévue dans l'accord du 31 décembre 2016. À la CENI, la Conférence épiscopale nationale du Congo demande de rassurer de son indépendance et de sa neutralité et aux partis politiques, entre autres, de proposer des projets de société pertinents et de ne pas accepter des cadeaux ponctuels qui frisent la corruption. Enfin, au peuple congolais, l'Église catholique de la RDC demande de prendre conscience que c'est lui et lui seul qui est le souverain primaire. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, un conseiller municipal et un enseignant burkinabé ont été tués la nuit dernière dans deux attaques simultanées dans le nord du pays, près de la frontière malienne. Le point avec Saloua Diafari.
Des individus armés non identifiés en moto ont assassiné le conseiller municipal Tamboura Boukari Aïssama du village d'Ouré Rimaïba, commune de Baraboulé, aux environs de minuit selon le ministère de la Sécurité. Les assaillants sont repartis vers le village de Pétégoli en portant la moto de la victime. Une autre attaque a eu lieu à Kaïn dans la province du Yatenga, frontalière du Mali. Lors de cette attaque menée par des assaillants à bord de moto, un professeur de français du lycée a été abattu et deux autres enseignants ont été blessés. Le nord du Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes récurrentes depuis 2015 qui ont fait 133 morts et au moins 80 attaques. Le groupe Ansar Islam de Malal Ibrahim Diko est souvent pointé du doigt. Ces djihadistes prennent régulièrement pour cible des membres de l'administration et des pouvoirs publics.
La sécurité sera d'ailleurs un des points qui seront abordés lors de la visite du président français François Emmanuel Macron au Burkina Faso. Vous pourrez suivre un reportage à Ouagadougou dans la partie magazine de cette édition. Le gouvernement malien a reporté à avril 2018 les élections régionales prévues le 17 décembre, une date que contestaient les groupes signataires de l'accord de paix de 2015 pour permettre à tous les acteurs concernés de disposer du temps de discussion nécessaire afin d'apporter des réponses aux préoccupations exprimées. Il est apparu nécessaire de reporter la date des élections du 17 décembre qui auront finalement lieu en avril 2018 selon le gouvernement. Par ailleurs, le président français, donc, je vous le disais, arrive ce soir à Ouagadougou, première étape de sa tournée ouest-africaine. Le président Faure Gnassingbé s'est dit rassuré sur un Togo indivisible après une visite ce week-end à Sokodé, deuxième ville du pays, important foyer des tensions qui agitent le pays depuis 3 mois. Mes échanges avec les imams puis avec les cadres de la ville ont fini de me rassurer que notre pays reste indivisible, a-t-il écrit sur Twitter. Le 21 février, jour anniversaire de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe, est désormais jour férié au Zimbabwe. Cette décision très symbolique a été prise quelques jours après la prestation de serment du nouveau chef de l'État. Lors de son discours d'investiture, Emmerson Mnangagwa a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, le père de la nation, appelant le pays à reconnaître son immense contribution à la construction du pays. Le Soudan a arrêté le puissant chef d'une milice du Darfour que les Nations Unies accusent d'atteinte aux droits de l'homme dans cette région en guerre. Le point avec Solange Nyamulisa.
Moussa Hilal, un ancien allié du président Omar El-Béchir, a été arrêté près de son domicile à Mustariha, dans l'ouest du Soudan. Son fils Habib a également été appréhendé. Ali Mohamed Salem, ministre soudanais de la Défense, a expliqué qu'ils ont été arrêtés après des affrontements, précisant qu'ils seront transférés à Khartoum. Dimanche, 10 hommes des forces spéciales, dont un commandant, ont été tués dans une embuscade près de Mustariha. Le gouvernement a récemment lancé une opération de collecte d'armes au sein des tribus au motif qu'ils considèrent que le conflit du Darfour est maintenant terminé. Moussa Hilal et ses hommes qui ont combattu les rebelles du Darfour refusent de livrer leurs armes. Les Nations Unies l'accusent de nombreuses atrocités, notamment d'avoir lui-même attaqué plusieurs villages et des camps de déplacés. Il a toujours rejeté ces accusations.
En Éthiopie, plus de 20 personnes ont été tuées la semaine dernière dans de nouveaux affrontements entre des membres de deux des principales ethnies, selon la radio d'État Fana. Des heurts similaires en septembre dernier ont fait des centaines de morts. La situation s'était calmée entre Oromo et Somalie après l'intervention de l'armée. Selon le porte-parole Negeri Lencho, la situation sécuritaire s'est améliorée depuis le mois de septembre, mais il est impossible de dire que le conflit est totalement terminé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le mouvement islamiste palestinien Hamas réitère son refus de rendre les armes à l'autorité palestinienne à l'approche d'un transfert de pouvoir très attendu dans la bande de Gaza. Anastasie Toudiech.
Le Hamas a même menacé de mener des attaques contre Israël en Cisjordanie. Les armes de la résistance constituent une ligne rouge. Ce n'est pas un sujet ouvert à la discussion, a dit Khalil al-Hayya, un cadre du Hamas. Le mouvement islamiste doit transférer le pouvoir à l'autorité palestinienne d'ici au 1er décembre dans la bande de Gaza qu'il dirige sans partage depuis 2007. Le Fatah et le Hamas restent en complet désaccord sur le sort qui sera fait au bras armé du Hamas avec ses 25 000 hommes et ses milliers de roquettes. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, exige un contrôle complet de la sécurité à Gaza. De son côté, Israël refuse de traiter avec un gouvernement d'unité palestinienne si celui-ci ne reconnaît pas Israël, ne renonce pas à la violence et ne désarme pas le Hamas.
Washington va procéder à un ajustement dans la livraison d'armes à une alliance anti-djihadiste dominée par les unités de protection du peuple kurde en Syrie. Un responsable kurde qui a confirmé l'information souligne toutefois que le soutien américain va se poursuivre. Classés comme terroristes par Ankara, les YPG sont le noyau dur des forces démocratiques syriennes, FDS, une alliance soutenue par Washington, et faire de lance de la lutte contre le groupe État islamique. Les manifestants islamistes occupant depuis 3 semaines le principal accès à la capitale Islamabad au Pakistan ont commencé à plier bagages après avoir demandé et obtenu la démission du ministre de la Justice. Leur retrait est la conséquence d'un accord négocié dans la nuit avec l'aide de l'armée pakistanaise. À l'origine de la colère des islamistes, un amendement modifiant la formulation du serment prononcé par les candidats à des élections dans lequel ils reconnaissent que Mohammed est le dernier prophète. Au Danemark, la justice a alourdi en appel la condamnation pour tentative d'acte terroriste d'une adolescente sympathisante du groupe État islamique qui avait planifié des attentats à la bombe contre des écoles. Condamnée à 6 ans en première instance, elle devra finalement purger 8 ans. La cour d'appel a motivé son jugement par la nature du crime, de la personnalité et du casier judiciaire auparavant vierge de l'adolescente de 17 ans. En Pologne, le centre de la culture musulmane à Varsovie, un bâtiment moderne qui abrite l'une des 2 mosquées de la ville et un restaurant, a été vandalisé. Selon la police, 10 de vitres ont été cassées, l'armature d'une grande tente dressée dans le jardin endommagée. Des slogans xénophobes ont été lancés par plusieurs groupes nationalistes lors de la marche de l'indépendance qui avait réuni à Varsovie quelques 160 000 personnes. C'était le 11 novembre à l'occasion de la fête nationale polonaise. Le service de covoiturage du groupe américain Uber est interdit en Israël en raison de problèmes liés à l'assurance des passagers. Ce jugement de la justice israélienne fait suite à une plainte du syndicat des chauffeurs de taxi et de Get Taxi, une compagnie de taxi utilisant une application sur téléphone mobile. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle avec Eric Manerakiza.
Le Burkina Faso se tourne vers les énergies renouvelables pour combler le déficit énergétique. Il s'est donc doté de la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest, construite sur le site d'Ozaktouli au sud-ouest d'Ouagadougou. Cet investissement a coûté 47,5 millions d'euros et la production totale devra atteindre 50 mégawatts. Le kilowattheure coûtera environ 45 francs CFA, 3 fois moins cher que le coût actuel de 145 francs CFA. 2 centrales solaires sont prévues à Koudougou de 20 MW et à Kaya de 10 MW. D'ici à 2030, le Burkina envisage de couvrir 30% de ses besoins en électricité avec le solaire. Au Niger, la loi de finances 2018 supprime les taxes sur les appels internationaux. Cette redevance représente environ 20 de milliards de francs CFA par an. En retour, les compagnies de télécom doivent investir davantage pour améliorer la couverture et la qualité de leurs services. En 2016, le Niger comptait près de 8 millions d'abonnés aux services de téléphonie mobile pour une population de 19 millions d'habitants. Enfin, le Canada et la Chine veulent faire de 2018 l'année du tourisme Canada-Chine. Les échanges bilatéraux ont atteint plus de 85 milliards de dollars canadiens en 2016. Les deux pays explorent la possibilité de conclure un accord de libre-échange. La Chine est le 2e partenaire commercial du Canada.
La page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Le TP Mazembe toujours pas rentré à Lubumbashi.
A vainqueur samedi à Pretoria de la Coupe de la Confédération face au Sud-Africain, le Super Sport, les corbeaux de Mazembe ont appris ce lundi dans la salle d'embarquement à Johannesburg que leur vol South African Airways pour rentrer à Lubumbashi était décalé à ce soir. Le club accuse sur son site internet des motivations politiques pour décourager les milliers de personnes qui devaient venir accueillir les corbeaux à leur arrivée à Lubumbashi. Faux, répondent les autorités congolaises. On rappelle en tout cas que le propriétaire des corbeaux n'est autre que Moïse Katumbi, un opposant qui vit en exil.
Démission du président du club tunisien de l'Étoile sportive du Sahel.
Rida Charfedine confirme sa démission annoncée hier à la fin du match contre l'Espérance sportive de Tunis à Sousse. On rappelle que la fin du match entre les deux équipes avait été interrompue durant 8 minutes en raison d'altercations et de violences entre les joueurs sur la pelouse.
Le retour de Gareth Bale avec le Real.
L'attaquant gallois, indisponible depuis 2 mois, va enfin rejouer avec le Real demain en 16e de finale retour de la Coupe du Roi contre Fuenlabrada, un club de 3e division. C'est ce qu'annonce ce lundi son entraîneur Zinedine Zidane. Gareth Bale, blessé à un mollet gauche fin septembre puis à la cuisse gauche début novembre, n'a plus joué depuis le match de Ligue des Champions remporté contre le Borussia Dortmund 3-1 le 26 septembre dernier.
On termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Minnesota confirme son début de saison prometteur avec une victoire à domicile face à Phoenix, 119-108. La crise couve chez les Grizzlies de Memphis, défait pour la 8e fois consécutive. Dimanche, l'équipe de Marc Gasol, très frustrée à l'issue de la rencontre, a été dominée sur son parquet par Brooklyn, 88-98. Miami s'impose 100-93 contre Chicago. Coup d'arrêt pour Oklahoma battu par Dallas, 80-97. Enfin, Boston qui domine Toronto, 108-98.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Ouagadougou, la capitale burkinabé, accueille ce lundi le président français Emmanuel Macron dans le cadre d'une visite officielle de 72 heures. Il doit faire à cette occasion une déclaration à l'intention de la jeunesse burkinabé et africaine sur sa vision politique à leur endroit. Si le gouvernement burkinabé se félicite de cette visite, des voix se sont élevées pour dénoncer cette visite, nous dit notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wanogo.
Le président français Emmanuel Macron a choisi le Temple du Savoir, l'Université de Ouagadougou, pour une adresse à l'endroit de la jeunesse africaine. Quelles sont les attentes des étudiants burkinabés?
Tanoïdi Drissa, en deuxième année en sociologie. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire haut et fort. La politique française envers le Burkina Faso vraiment est une politique vraiment assassine. Un étudiant qui va passer son temps à aller jusqu'au doctorat, il n'est pas capable de fabriquer une boîte d'allumettes.
Colani Augustin, étudiant en quatrième année droit public général. Nous invitons le président Macron à ne pas se limiter uniquement à la salle de conférence, qu'il visite les infrastructures dans lesquelles les étudiants prennent le cours.
Fofana Youssouf, elle est étudiante en un de licence.
Ce que nous réclamons, c'est justement donc l'enseignement de Cheikh Anta Diop, de Joseph Kizerbo, de Théophile Obenga, de Jean-Marc Ella, des savants africains pour une véritable conscientisation des peuples africains, pour que nous sachions qui nous sommes et où nous allons.
Koulibaly Astrid, je n'attends pas quelque chose de particulier chez lui. Bon, puisque si on dit on veut le changement au Burkina Faso, il faut qu'on change. S'il vient, au moins, il peut peut-être nous aider un peu à améliorer. Mais sinon, si on dit on attend tout des Français, là, on perd karma.
Bouda Amado, nous voulons qu'il y ait l'extradition de François Compaoré. Il faut qu'il y ait la lumière sur l'assassinat de Norbert Zango. Nous voulons juste la vérité. L'affaire Thomas Sankara aussi, parce que c'est eux qui ont exécuté Blaise Compaoré. Si vous pouvez nous les ramener, bon, beaucoup de choses vont s'éclaircir, quoi.
Djelgo Bandibouga, étudiant de lettres modernes, langue française. À mon avis, je souhaiterais que son arrivée ici, il puisse nous donner des éclaircissements sur la politique de la France-Afrique, eux aussi sur notre volonté de sortir du franc CFA.
Depuis François Mitterrand en 1986, sous la révolution du capitaine Thomas Sankara, un président français n'était plus venu au Faso en visite officielle. La venue d'Emmanuel Macron, pour autant, n'est pas saluée par tout le monde. Des syndicats, des mouvements d'étudiants et élèves se sont prononcés contre. Nous avons rencontré Alpha Barry, le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Voici ce qu'il en pense.
Dans la tradition africaine, il y a un devoir d'accueillir. Le Burkina ne va pas déroger à cette règle. Mal accueillir quelqu'un, ce n'est pas en tout cas burkinabé. Je dirais même que ce n'est pas africain. Et donc, moi, je suis étonné que des gens estiment que ça pose un problème. Bien au contraire, je trouve, dans la situation que nous vivons en ce moment en Afrique, la France est un partenaire important, même si nous disons que beaucoup de problèmes que nous vivons, notamment les problèmes de terrorisme, ont pour origine la Libye qui a été déstabilisée par les pays occidentaux, y compris la France. Donc, ça, c'est quelque chose que nous ne cachons pas à nos amis et partenaires.
Par mesure de précaution, le gouvernement burkinabé a décidé la fermeture des établissements scolaires de ce lundi au mercredi. Zoumana Wanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Bonjour à tous, ici Eki Abadou. Je vous donne rendez-vous à 18h en temps universel dans votre émission interactive À votre avis. Emmanuel Macron arrive ce soir au Burkina Faso. Il aura un entretien avec son homologue burkinabé, Monsieur Christian Kabore. Demain, il prononcera à l'université de Ouagadougou un discours sur sa politique africaine. À votre avis, la visite de Monsieur Macron va-t-elle permettre d'améliorer les relations France-Afrique? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 00. 01 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur www.voafrique.com.
Report des élections régionales et locales au Mali, initialement prévues pour se tenir le 17 décembre 2017. Les élections des présidents de région et des maires de 59 communes ont été reportées à avril 2018. C'est ce qu'a décidé hier le gouvernement de Bamako, qui dit vouloir permettre aux acteurs de se préparer, ajoutant que ce report permettra de tenir les élections sur l'ensemble du territoire. Pour analyse, Yacouba Ouédraogo a joint Moussa Boli, journaliste à Bamako.
Le report a été prévu d'autant que depuis que la date des élections a été fixée au 17 décembre, il y a eu une certaine recrudescence de la violence au centre et puis au nord du pays. Alors que tout le monde sait que c'est des élections pour les collectivités, donc la légitimité dépend en partie de l'organisation sur l'ensemble du territoire.
Le gouvernement dit officiellement vouloir permettre aux acteurs de se préparer et permettre aussi que les élections se tiennent sur l'ensemble du territoire. Partagez-vous ce motif de report?
C'est un motif beaucoup plus politique. En novembre 2013, on a organisé des communales. Les communales n'ont pas pu, c'est-à-dire qu'ils tenaient sur l'ensemble du territoire, mais dans la grande majorité des communes du pays, on a pu organiser des communales. Le mandat des élus concernés a pris fin depuis avril 2014. Donc, ça va faire 5 ans d'illégalité pour ceux qui sont en place.
Certains partis politiques et groupes armés avaient demandé ce report-là pour des raisons d'insécurité. Pensez-vous que le gouvernement a cédé à la pression de cette demande-là?
Personnellement, je pense que le gouvernement a cédé beaucoup plus à la pression de ce groupe armés, parce que même après avoir présidé un moment, après avoir protesté un certain temps par rapport au calendrier électoral, était parvenu à la conclusion qu'il fallait organiser les élections. Mais la crise de l'élection, aussi bien des partenaires comme l'Union européenne, était que le gouvernement puisse assurer vraiment les conditions d'une élection transparente pour tous. Le gouvernement a beaucoup plus cédé. Alors que cette question se dit à l'élection concrètement pour ramener la sécurité dans leur bastion. Je ne vois pas que même si c'est la vivanie européenne, aujourd'hui, si c'est des groupes représentatifs des population, ce groupe doit être capable de superviser les élections dans leur localité pour que les maires puissent sortir de cette impasse.
La nouvelle date retenue, on l'évoquait tout à l'heure, pour les régionales et les communales, c'est avril 2018. La présidentielle, elle, est prévue pour juillet 2018. Pensez-vous que la sécurité puisse s'améliorer sur le territoire national afin que ces élections-là puissent s'éteindre?
Les réponses successives pour les raisons de sécurité risquent d'entraîner le Mali vers une zone d'instabilité politique. Parce que si en juillet 2018, on n'est pas en mesure d'organiser les élections sur l'ensemble du territoire, mais peut-être on va faire. Le mandat des présidents de la République, ce n'est pas comme le mandat d'un maire d'une commune ou d'un conseil régional. Et si jamais en juillet, la situation sécuritaire n'a pas évolué, et on va encore renforcer les présidentielles. Et quelles seront les conséquences d'un tel report sur la stabilité même politique d'un pays déjà éprouvé? Donc je pense que ce report nous entraîne progressivement vers une crise politique majeure dans le mois à venir. Parce que je ne suis pas sûr que la situation sécuritaire puisse réellement changer ici le scrutin présidentiel non plus.
C'était le journaliste Moussa Boli, joint à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
La région des Grands Lacs vibre sous le spectacle des Passions Unies, une représentation théâtrale qui interpelle les jeunes de la région sur l'impuissance des Nations Unies face aux maux qui rongent les États et appelle les jeunes à prendre leur destin en main face au chômage qui mine particulièrement l'Afrique. Un reportage à Bukavu d'Ernest Mouero.
C'est sous un mélange d'islam sur fond de musique mélancolique que les amoureux de la culture dégustent les Passions Unies, un spectacle du ballet Renaissance Africa de Bukavu en tournée dans la région du Grand Lac africain sous la houlette du pôle culturel Est. À Uvira, tout comme à Bukavu, Goma et bientôt à Bujumbura, c'est dès décembre, le plancher vibre sous la voix douce mais révoltée, l'islameur Thierry Kinzo dit les Juifs. Il peint de façon crue la misère d'une jeunesse à mal de repères dans un monde en perpétuelle injustice sous la barbe impuissante des Nations Unies, déplore l'islameur Kinzo.
Quand je parle de mon diplôme et mon pays d'accueil, ce n'est pas seulement mon problème. Presque chaque Africain connaît ces problèmes-là. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont vendus en Libye à cause de ces diplômes ratés souvent le manque d'emploi. Chacun devrait réfléchir sur ça. Je voulais interpeller la conscience de tout un chacun.
Des goûts du monde d'aujourd'hui où fuit en avant les passions unies projettent le public en 2050 où les slammers entrevoient un monde sans organisation des Nations Unies. Le public est en liesse. Donado Moussema, directeur de la radio communautaire Iriba FM, en garde une bonne impression au sortir du spectacle.
C'était très très profond en termes littéraires parce qu'on a dit si vous êtes lâche, vous allez être comme des vaches et vous allez rester dans votre clivage. Donc vous comprenez que nous devons travailler ensemble dans la convivialité et ce sont ces passions unies qui nous manquent aujourd'hui pour arriver à un monde où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'injustice. Et ça fait la beauté de cette pièce. Ça faisait un temps qu'on n'avait plus vécu ce genre de production.
Pour Franck Moisé, représentant du pôle culturel Est dans ce spectacle, le message véhiculé dans les passions unies est un appel au changement dans la région des Grands Lacs.
Dans les Grands Lacs aujourd'hui, on a des problèmes. Un spectacle comme celui-ci, c'est déjà une occasion pour nous de dire que par le théâtre, par les médias, on peut interpeller tous les politiciens des Grands Lacs pour qu'ils soient responsables devant les actes qu'ils posent vis-à-vis de la population. Les Passions Unies, avec des rimes qui se succèdent et qui se bousculent, relèvent les réalités du monde. Et c'est vraiment un méli-mélo, mais qui remet la jeunesse devant une réflexion de fond sur que va être le monde de demain.
Patrick Zézé, directeur artistique du Ballet Renaissance Africa et metteur en scène du spectacle, appelle le public à s'approprier le message véhiculé.
Nous travaillons dans ce qu'on appelle l'edutainment, l'éducation par le divertissement. On se défoule pour parler de quelque chose qui ne va pas.
Ce spectacle de 55 minutes en balle, d'Ouvira au Sud Kivu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les Rohingyas de Birmanie continuent d'arriver au Bangladesh malgré l'accord de retour des réfugiés signé par les deux pays la semaine dernière. 700 000 Rohingyas au moins sont concernés. L'exode des Rohingyas forme la toile de fond du périple du pape François en Birmanie et au Bangladesh qui a débuté cette semaine pour un état des lieux. Jacques Aristide s'est entretenu avec Philippe Bolopion de l'ONG Human Rights Watch.
Il est sans doute trop tôt pour parler du retour des réfugiés alors qu'ils continuent à fuir les violences qui les attendent dans l'état de Rakhine en Birmanie. L'objectif de moyen terme ou de long terme, c'est le retour de ces réfugiés, mais ça doit être un retour dans des conditions de sécurité. Ça doit être un retour qui est volontaire, dans la dignité, et malheureusement, tout indique que ces conditions pour l'instant ne sont pas remplies. Il est extrêmement dangereux aujourd'hui d'être un Rohingya en Birmanie.
Le nombre d'arrivées a toutefois décliné, d'après un lieutenant-colonel des gardes frontières du Bangladesh. L'espoir est-il donc toujours permis ?
Il ne faudrait pas trop s'enthousiasmer d'une réduction des chiffres, qui ne traduit pas forcément une réduction des violences. Au bout d'un moment, il y a une telle proportion de la population Rohingya qui a fui que forcément les chiffres finissent par se réduire. Ça ne veut pas dire en aucun cas que les conditions pour les Rohingyas dans l'état de Rakhine ne sont pas aussi dangereuses qu'elles ne l'étaient il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc ce qu'il faudrait voir, c'est un réel changement sur le terrain et malheureusement rien n'indique qu'un tel changement ait pu avoir lieu. Au contraire, les autorités et l'armée birmane qui sont responsables de cette campagne de nettoyage ethnique continuent à nier tous les crimes qui ont été commis et gardent la tête dans le sable. Et dans ces conditions, non, on ne peut pas se réjouir d'une réduction du nombre des arrivées au Bangladesh.
À quoi faut-il s'attendre du délicat voyage du pape François en Birmanie et au Bangladesh cette semaine concernant cet exode des Rohingyas, d'ailleurs considéré par l'ONU comme une épuration ethnique?
Effectivement, c'est sans aucun doute une des pires campagnes de nettoyage ethnique de l'histoire récente. Plus de 600 000 personnes forcées de fuir leur maison en l'espace de quelques semaines. Cela montre l'ampleur et la cruauté de cette campagne de nettoyage ethnique menée par les autorités birmanes. Nous avons conclu que ces crimes étaient des crimes contre l'humanité. Donc la gravité de la situation est extrême et dans ce contexte, on espère que le pape va utiliser son autorité morale, sa force morale, la force de sa voix pour dénoncer ces crimes et faire pression sur les autorités birmanes pour qu'ils cessent, pour que la discrimination contre les Rohingyas cesse, que les crimes contre les Rohingyas cessent. Certaines pressions sur le pape visent à le décourager d'utiliser le terme Rohingya. Nous pensons que ce serait évidemment une grave erreur. Une grande partie des Rohingyas de Birmanie ont perdu leur maison, ont perdu leur terre, leur dignité d'une certaine manière, et ce qu'il leur reste, c'est leur identité. Ce sont des Rohingyas, ils veulent être appelés les Rohingyas, et dans ce contexte, si le pape décidait de céder aux pressions racistes des autorités birmanes, ce serait une grave erreur.
C'était Philippe Bolopion, directeur du plaidoyer à Human Rights Watch auprès de l'ONU ici à New York. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Michel Joseph. Présentation Abdulrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Dans un instant, point sur l'actualité avec Henri Francisque.